La Fouano 38. La révélation de la parousia de Dieu. Le 15 octobre 2017. Brian Kozurek, pasteur. Ce matin, je voudrais parler d'un sujet qui me semble très mal acquis compris parmi le monde chrétien et les gens qui prétendent croire ce message. Pour comprendre en quoi consiste ce message, il faut non seulement une révélation, mais il faut une révélation spécifique concernant les événements du temps de la fin et comment ils se combinent tous pour constituer le cri, la voix et la trompette de Dieu qui sont les trois principaux événements associés à la révélation de Jésus-Christ au temps de la fin. Le cri, la voix et la trompette ont eu lieu lors de ce qu'on appelle la parousia de Christ. L'apôtre Paul en parle dans sa première épître aux Thessaloniciens, au 4e chapitre. Or, l'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens 4.13 « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. » L'apôtre Paul ne voulait donc pas que nous soyons ou restions ignorants concernant la résurrection, et plus précisément le moment de la résurrection, parce qu'il parle de ceux qui dorment. 14. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Maintenant, remarquez que l'apôtre Paul parle ici de la mort et de la résurrection de Jésus, puis il parle de la résurrection de ceux qui dorment en Jésus, les chrétiens remplis du Saint-Esprit, et il dit que ce sont ceux que Dieu amènera avec lui. Ainsi, il parle de quelque chose que Dieu fait. 15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous n'aimons et devancerons pas ceux qui sont morts. Maintenant, ce mot avènement est une mauvaise traduction des hommes qui ont écrit les versions de la Bible autorisée du roi Jacques. Ils n'avaient aucune compréhension des événements du temps de la fin. Alors, ils ont employé un mot qui correspondait à leur théologie, mais ils se trompaient sur les événements du temps de la fin tels qu'enseignés par un prophète confirmé. Le mot grec était parousia et son équivalent en français est simplement présence. Ainsi, afin d'avoir une meilleure compréhension de cette chose que Dieu fait, insérons le mot français présence et la lecture devient entièrement compréhensible en termes d'événements du temps de la fin. 15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour la parousia, présence du Seigneur, nous n'aimons et devancerons pas ceux qui sont morts. Or, le mot avènement ou venu implique seulement l'acte d'arrivée, mais alors que nous lisons, les événements qui accompagnent cette présence montrent que cela implique un temps considérable, et non le simple acte d'arrivée. Alors que nous continuons à lire, nous verrons trois choses que Dieu fait, puis la résurrection se produit et nous sommes enlevés pour rencontrer le Fils de Dieu dans les airs. 16. Car le Seigneur lui-même, maintenant, souvenez-vous qu'il n'y a qu'un seul Seigneur et une seule foi de ce seul Seigneur. Moïse a enseigné cela, Jésus a enseigné cela et Paul a enseigné cela. Ainsi, nous voyons ce seul Seigneur, qui est Dieu lui-même, au cri de commandement, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Maintenant, rappelez-vous que tout cela se déroule au moment que l'apôtre Paul appelle la parousia présence de Christ, que nous avons déjà indiqué au verset 15 et que nous relirons. 15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour la parousia, présence du Seigneur, nous n'aimons et devancerons pas ceux qui sont morts. Remarquez que cette parousia présence est un temps que Dieu a mis à part pour les enfants de Dieu au temps de la fin qui n'aimés sont pas entrés dans la tombe pendant les 7 âges de l'Église. Il dit ne les vivants, rester pour la parousia, présence du Seigneur. Et puis Paul ajoute, nous n'aimons et devancerons la version anglaise du Raja ou dit, empêcherons, note du trad, pas ceux qui sont morts. Maintenant, ce mot empêcher a été traduit d'un grec mot, et cela n'aime et signifie pas les empêcher, mais signifie, en fait, que nous n'aimons les précéderons pas. Donc ce que Paul nous dit ici, c'est-à-dire que pendant le temps de cette parousia présence, il se passera quelque chose qui amènera les saints endormis à se réunir avec les saints vivants. Et l'apôtre Paul explique cela que dans le verset très suivant, quand il dit, 17 ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux les saints endormis que Dieu ramène avec lui sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. La plupart des gens qui se disent chrétiens aujourd'hui n'ont aucune idée que cette écriture parle de la présence de Dieu au temps de la fin parmi les gens avec un ministère pour les saints qui sont vivants à ce moment-là, puis d'un rassemblement des saints qui sont déjà allés auprès de Jésus, qui seront les saints ressuscités. Dieu lui-même descend sur terre avec le ministère du cri, de la voix et de la trompette. Ce sont les trois choses que Dieu lui-même fait au moment de cette parousia présence. Et plusieurs de ceux qui prétendent suivre le ministère de William Branham Néhémie comprennent pas ce que Dieu a fait en cette heure au-delà du fait que Dieu a envoyé un prophète. Je n'oublierai jamais les paroles que Frère Vell a prononcées en 1982 lors des réunions de Columbus. Il a dit, pas de prophète, pas de Dieu. Pas de Dieu, pas de prophète. Et ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire que quand Dieu envoie un prophète, le prophète n'est jamais envoyé seul, mais Dieu accompagne toujours ce prophète. Le signe d'un prophète parmi les gens est toujours et également accompagné de la présence personnelle de Dieu parmi les gens. Et si on est mis, comprend pas ce principe. Il est impossible de comprendre ce qui s'est passé en cette heure où Dieu nous a envoyé son prophète. C'est pourquoi je souhaite remonter jusqu'en 1982 et vous présenter une étude que j'ai faite à l'époque, parce que beaucoup d'entre vous, en 1982, n'étiez même pas encore né, et comme beaucoup Néhémie comprennent toujours pas le ministère du Saint-Esprit en cette dernière heure, je voudrais montrer, par la Bible et les citations, ce qui s'est exactement produit selon les apôtres Paul et Pierre, et le prophète William Branham lui-même, qui ont tous enseigné la doctrine de la parousia. Permettez-moi d'abord d'établir que la doctrine de la parousia de Christ est une doctrine qui a été enseignée par l'apôtre Paul. Nous l'avons déjà lu dans 1 Thessaloniciens 4.13-18. Dans ces versets de la Bible, l'apôtre Paul nous explique le ministère de la présence personnelle de Dieu sur la terre au temps de la fin et il nous dit ce que Dieu fera lors de sa présence. Maintenant, Paul a lui-même utilisé ce mot parousia plus de 20 fois, et nous étudierons ce mot à chaque fois qu'il l'utilise afin d'établir la doctrine de la parousia que l'apôtre Paul a enseignée. Deuxièmement, les apôtres Pierre, Jean et Jacques ont également enseigné cette doctrine de la parousia, ce qui en fait non seulement l'enseignement de Paul, mais également la doctrine des apôtres, car elle est mentionnée par tous les auteurs des livres du Nouveau Testament. De plus, l'apôtre Paul nous a avertis dans Galates 1.8-9 de ce qui suit. 8. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. 9. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et quand l'apôtre Paul avertit que si quelqu'un prêche un tout autre évangile que celui qu'il a prêché, il n'émis parle de ce quelqu'un ou d'une personne, sans distinction de genre. La traduction vue est l'interprète ainsi, En fait, même si nous ou un messager du ciel vous prêchez un évangile qui va au-delà de ceux que nous vous avons prêché comme la bonne nouvelle, qu'il soit maudit. Par conséquent, même si un messager descend du ciel, il estère toujours sous les auspices de l'évangile de Paul et doit l'enseigner comme Paul l'a enseigné, sinon il sera maudit. C'est-à-dire pourquoi frère Branham en estère tenu aux enseignements doctrinaux tels que l'apôtre Paul les a enseignés. Les dix vierges dimanche décembre 60 M 213, j'envie des millions se tenant là et je demandais. Esther, ce que ce sont tous des Branham? La réponse fut, non. Dit-on. Se sentaient convertis. Je dis ensuite. Je voudrais voir Jésus. 214 on me répondit. Pas maintenant. Il se passerait encore un certain temps avant qu'il vienne. Mais il viendra à toi d'abord et tu seras jugé par la parole que tu as prêchée. Et se repose sur elle. 215 je demandais, Esther, ce que ce sera ainsi pour tous? Paul devra-t-il aussi se présenter? 216 oui. Paul se présentera aussi avec le groupe auquel il a prêché. 217 je dis, j'ai prêché le même message que lui. 218 alors. Ces millions de gens levèrent les mains et dirent, c'est Esther là-dessus que nous nous reposons. Voilà. Vous voyez? La même. Les fils de Dieu manifestés 60-05-18-234 alors. Donc, si c'était vrai ce jour-là, il a dit, ces gens-là, ils m'ont dit, ils ont dit, Jésus viendra à toi, et tu nous présenteras à lui, une vierge pure. Tu seras jugé selon la parole que tu leur as prêchée. Et, regardez, si je vous prêche exactement ce que Paul a prêché à son église, si son groupe à lui entre, le nôtre entrera aussi, parce que nous avons la même chose. Amen. Pourquoi nous n'émissons pas une dénomination? Psaume 27 septembre 58-157. Vous savez, Paul était l'apôtre à l'église des gentils. Regardez ici. Saviez-vous que Paul... Combien croit que c'est Esther ce que Paul a prêché? Esther ce qu'il a dit ici? Et Paul déclare. 159 vous dites, eh bien, attendez une minute là. Frère Branham. Juste une minute. Notre évêque dit que c'est Esther en ordre. Le surveillant général des assemblées dit que c'est Esther en ordre. L'évêque unitaire dit que c'est Esther en ordre. 160 peu m'importe ce qu'ils disent. C'est Esther faux. Je vous ai prévenu que j'allais faire pénétrer ceci fortement. Et ce sont de faux prophètes qui disent de telles choses. En effet, la Bible déclare, si quelqu'un croit être inspiré ou prophète, qu'il reconnaisse que ce que je vous dis est un commandement du Seigneur. Et si son esprit Néhémie rend pas témoignage à cette parole, il est un faux prophète pour commencer. Je préférerais être un misogyne qu'un amateur de femmes, pour permettre et supporter dans l'église de Dieu de telles choses, qui sont, contraires aux préceptes de Dieu. Et Paul dit. Prenez Galates 1.8. Paul déclare, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que je vous ai prêché, qu'il soit anathème. Eh bien, qu'allez-vous faire de cela? Ce sont des mots très durs, et même caustiques. Mais frère Branham a dit, si un homme enseigne contrairement à ce que Paul a enseigné, il est un faux prophète. Et ce matin, nous établirons que l'apôtre Paul nous a enseigné la doctrine de la parousia de Christ. Et si des hommes disent que c'est faux, il fera mieux de faire attention, car ils n'émédisent pas ce que l'apôtre Paul a dit. Maintenant, ce mot grec parousia a été utilisé par les Grecs pour montrer non seulement l'arrivée, mais plus précisément le séjour effectif ou la présence ultérieure. L'accent néhémie doit alors pas être mis sur l'arrivée, mais sur les événements qui suivent l'arrivée. L'auteur, Israël P. Warren de Portland dans l'état de Maine, a écrit dans son livre The Parousia, la Parousia, note du Trad. En 1879, page 12 et 15, nous parlons souvent du deuxième avènement, de la seconde venue, etc. Mais les Écritures Néhémie parlent jamais d'une seconde parousia. Quelle que fût sa nature, c'était quelque chose de particulier, qui Néhémie s'était jamais produit auparavant et qui Néhémie se reproduira plus jamais. Ce devait être une présence différente et supérieure à toutes les autres manifestations de lui-même aux hommes, de sorte que sa désignation devrait se tenir correctement par elle-même, sans aucune épithète de qualification autre que l'article, la présence. Du point de vue de ce mot, il est évident que ni le mot anglais coming, venu, en français, note du trad, ni le mot latin adv, arrivé au avènement, en français, note du trad, n'est le meilleur représentant du mot. Ils n'émis sont pas conformes à son étymologie. Il Néhémie correspond pas à l'idée du verbe dont il dérive. Il Néhémie pouvait pas non plus remplacer de manière appropriée le mot plus exact de « présence ». Dans les cas où les traducteurs utilisaient ces derniers, leur radical racine plus grand que n'est pas le même. « Coming », »,« venu » et « advent », »,« arrivé » ou « avènement » donnent le plus nettement la conception d'une approche vers nous, d'un mouvement vers nous, parousia celui d'être avec nous, sans référence à la façon dont cela a commencé. La force de la venue ou de l'avènement se termine avec l'arrivée, celui de la présence commence avec l'arrivée. L'arrivée et l'avènement sont des mots de mouvement tandis que la présence montre le repos. L'espace du temps couvert par l'action de venir ou de l'avènement est illimité. Il peut être momentané, celle de la présence est illimitée. Si nos traducteurs avaient fait avec ce mot technique parousia comme ils l'ont fait avec baptisme le transférer sans le changer, ou le traduire en utilisant son exact équivalent étymologique, présence et s'ils comprenaient bien, comme ils devaient le comprendre, qu'il n'existe pas une telle chose que la seconde présence, je crois que l'ensemble de la doctrine aurait été différente de ce qu'elle est maintenant. Les expressions deuxième événement et seconde, venu, n'aurait jamais été entendu. L'Église aurait appris à parler de la présence du Seigneur, de laquelle ses espérances devaient se réaliser, que ce soit dans le futur ou dans la période la plus reculée, sous laquelle le monde devait être renouvelé, une résurrection à la fois spirituelle et corporelle devrait être atteinte, et la justice rendue et les prix éternels décernés. En examinant l'utilisation scripturaire de ce mot parousia, nous prendrons les 23 versets où ce mot apparaît et nous montrerons la pertinence du mot présence et comment elle s'applique à cette heure. Après tout, frère Branham a dit dans Shalom, aux pages 223, tous les Nouveaux Testaments parlent de cette heure. Dans l'évangile de Matthieu 24.3 nous voyons la première occurrence de ce mot lorsque les disciples posent la question à Jésus à propos de sa présence et à propos de la fin du monde. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ta, parousia, présence et de la fin du monde ?» La question posée était « Quel sera le signe de ta présence ?» Ses disciples Néhémie savaient rien d'une première venue encore moins d'une seconde venue. Ils demandaient « Quand est-ce que ta présence sera connue publiquement ? Quand vas-tu te montrer et manifester ta présence aux hommes ?» C'est la même question que les frères de Jésus lui ont posée dans Jean 7.1-13 mais Jésus a refusé de leur répondre car ils Néhémie le croyaient pas. Il leur a dit d'aller seul à la fête. Ensuite, il y est allé plus tard en secret, Néhémie voulant pas se montrer publiquement. Frère Branham dit dans son message intitulé, La révélation de Jésus-Christ dîme 4 décembre 60 m 106 au. Combien le dernier âge et la venue du Seigneur est à des. Est à cacher aux apôtres. Ils ont posé la question, mais un seul a vécu pour en avoir la révélation. Et même alors, il n'avait pas compris cela, parce que l'histoire n'était pas encore faite. Donc, avec cela à l'esprit, je n'ai mis fin ni entrer ni sortir les gens en fonction de leur compréhension de cette révélation, parce que frère Branham a dit que les apôtres eux-mêmes n'aimaient l'avaient pas comprise. Mais en ayant la révélation de la présence de Christ en cette heure, il est essentiel de comprendre les événements pour lesquels Dieu est ici afin de les accomplir. Et sans cette révélation, vous aurez non seulement du mal à qui a essayé de trier les différents événements qui se sont déjà produits, mais vous aurez également aucune idée de ce qui reste à venir lors du reste du cri, puis de la voix et enfin de la trompette de Dieu pendant de cette période de la fin appelée la parousia de Christ. Comme vous pouvez le voir, il est essentiel de voir la parole manifestée afin de recevoir la bonne interprétation de celle-ci. L'auteur Job Rotherham de Cincinnati, dans l'État d'Ohio, a écrit une traduction de la Bible appelée la Bible accentuée. Dans sa traduction, il a noté ce qui suit. Dans cette édition, le mot parousia est uniformément rendu par présence, venu, comme représentant de ce mot a été mis de côté. Il a poursuivi, la parousia est toujours à venir, et peut donc être voilée dans une mesure d'obscurité que seul l'accomplissement peut dissiper. Elle peut in fine être à la fois une période, plus ou moins longue, pendant laquelle certaines choses doivent se produire, un événement, qui succède à un autre comme une série d'interpositions divines. Frère Branham a fait une déclaration très similaire dans l'exposé des sept âges de l'Église où il dit ce qui suit. Exposé des sept âges de l'Église souligne l'introduction page 9-1, le présent volume, même s'il traîne de plusieurs doctrines importantes, telles que la divinité, le baptême d'eau, etc., dont il est question dans les chapitres 1 à 3 de l'Apocalypse, a pour but principal de fournir une étude détaillée des sept âges de l'Église. Cette étude s'impose comme préalable à celle du reste de l'Apocalypse, car des âges sortent les sceaux, des sceaux sortent les trompettes, et des trompettes sortent les coupes. Tel l'éclatement initial d'une chandelle romaine, les âges de l'Église produisent une puissante illumination initiale, sans laquelle il n'est mis pourrait y avoir d'autres feux. Mais une fois que la révélation divine a apporté l'éclat des sept âges de l'Église, les lumières jaillissent l'une après l'autre, jusqu'à ce que la totalité de la révélation se trouve grande ouverte devant nos yeux émerveillés, et que, l'esprit de celle-ci nous édifiant et nous purifiant, nous soyons préparés pour la glorieuse apparition de notre Seigneur et Sauveur, le seul vrai Dieu, Jésus-Christ. Frère Branham a également dit, Dieu est son propre interprète et il interprète sa parole en la faisant s'accomplir. C'est exactement ce que Rotherham a écrit concernant la parousia. Est toujours à venir, et peut donc être voilé dans une mesure d'obscurité que seul l'accomplissement peut dissiper. Et puisque nous avons eu un prophète qui est revenu en cette heure avec l'ainsi dit le Seigneur et a déclaré la présence de Christ parmi nous, nous pouvons nous reposer en sachant que nous avons la bonne interprétation de la parole. Matthieu 24.27 Car, comme l'éclair vient de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera la parousia du Fils de l'homme. On voit ici la présence et non la venue. L'éclair qui vient n'est qu'un éclair, mais dans cet exemple, il dit que cela éclairera toute la terre. Pas seulement un éclair rapide à l'horizon quelque part, mais cet éclair va d'est en ouest, ce qui représente une illumination totale. L'éclair qui vient d'est en ouest englobe l'espace et le temps, comme la présence montre non seulement l'arrivée mais également l'espace de temps qui couvre sa présence. En fait, le mot vient ici est un mot qui signifie se propager à l'étranger. Pas juste un scintillement, mais une lumière qui englobe entièrement. Et frère Branham a dit, Mon ministère est-il de les déclarer? Lui, qu'il est-il ici? Nous voyons donc deux choses, une déclaration de Christ et une notification de sa présence. Qu'il est-il ici? Cette écriture nous dit également que la grande présence de Christ apportera une grande lumière qui éclaircira toute la terre. Dans l'évangile de Jean 1.4-5, nous lisons, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres n'y l'ont point reçue. Je pense que c'est pour cette raison que tant de gens semblent n'y pas comprendre en quoi consiste cette parousia. Parce qu'ils n'y peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Car selon 1 Corinthiens 2.11, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est c'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne n'aime et connaît les choses de Dieu, si ce n'est c'est l'esprit de Dieu. 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14. Mais l'homme animal n'y reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il n'y peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il faut donc le Saint-Esprit pour comprendre les choses de Dieu. Ce qui nous amène à un autre point. Balaam était un véritable prophète de Dieu, mais c'était sa décision de courir après l'argent qui l'a fait tomber dans l'erreur. Lucifer a été créé par Dieu pour conduire l'adoration et il était plein de sagesse et de beauté, mais c'est sa décision de chercher la popularité qui l'a poussé à l'erreur. Maintenant, c'est un avertissement du Saint-Esprit à tous ceux qui écoutent ces paroles ce matin. Dieu a créé Lucifer pour conduire et Dieu a fait de Balaam un véritable prophète de Dieu. Mais ce sont leurs décisions d'aller après l'argent et la popularité qui ont provoqué leur chute. Que cela soit un avertissement pour tous ceux qui prétendent servir Dieu en cette heure. Nous voyons donc ici que la présence de Christ lors de sa première venue a produit une illumination. Et si l'Esther le même hier, aujourd'hui et éternellement, alors le signe de sa glorieuse présence ici, parmi nous, à nouveau, en cette heure devra être véritablement confirmé par une illumination qui sera reçue par ceux à qui elle était destinée et rejetée par ceux qui sont dans l'obscurité. Dans le livre de Matthieu, nous voyons la deuxième fois où ce mot parousia est prononcé et cette fois-ci par Jésus-Christ lui-même. Par conséquent, Jésus lui-même est l'auteur de la doctrine de la parousia comme nous le voyons dans Matthieu 24.37. Ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même à la parousia du Fils de l'homme. Remarquez, en utilisant le pluriel jour, Jésus vous dit que la parousia du Fils de l'homme sera une période plus ou moins longue. Par conséquent, le mot parousia n'est mis par le pas de l'instant de l'arrivée. Car que c'est stérile passé au jour de Noé. Cette même chose doit se répéter à nouveau, et nous savons qu'un message de salut et de jugement ont précédé. Car Pierre nous a dit que Noé était un prédicateur de la justice. Et ce fut le salut pour ceux qui entrèrent, et le jugement pour ceux qui refusèrent d'entrer. Écoutez ce que Jésus dit encore la troisième fois que nous voyons apparaître ce mot parousia dans la Bible. Matthieu 24.39. Et ils n'aimaient se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, il en sera de même à la parousia du Fils de l'homme. Encore une fois, nous voyons par cet exemple du déluge qui vint sur les gens et les emporta, que les gens n'aimaient furent pas conscients d'un message de grâce et de miséricorde et ainsi ils refusèrent d'entrer dans cette parousia présence du Fils de l'homme. Remarquez, au jour de Noé, quelques-uns seulement prirent en compte le message, tandis que les autres se moquèrent de la doctrine de Noé. En fait, Sister, ce que frère Branham a écrit dans ses notes pour son sermon sur l'enlèvement, que le temps de l'enlèvement, que nous savons être le temps dont l'apôtre Paul a parlé dans 1 Thessaloniciens 4:13-18. Et dans ses notes concernant ce passage, frère Branham a dit qu'on se moquera de la doctrine comme nous le voyons ici, groupe de symboles égal, plus grand que, ce déluge qui arriva et les emporta tous fut le résultat d'une période de pluie de 40 jours. Cela n'est mis Esther pas produit au premier signe de pluie ou aux premières pluies. Il est intéressant de noter que la période de la résurrection fut d'environ 40 jours. Il en sera de même à la période de la résurrection oméga pendant laquelle l'attente sera avec nous pendant environ 6 semaines, soit 40 jours. Selon la description de frère Branham de la façon dont il voulait que cette tente soit mise en place. Cela nous indique également qu'une Néhémie se doutèrent de rien. Jusqu'à ce qu'une Néhémie soit trop tard. Nous savons que Dieu avait un prophète en scène prêchant un message d'avertissement puis de jugement pendant près de 120 ans, mais qui a été rejeté par tous sauf par une poignée de personnes, Néhémie laissant que le jugement pour ceux qui ont refusé le message de cette heure-là. La fois suivante où nous voyons ce mot parousia être évoqué, c'est Esther par l'apôtre Paul lui-même dans 1 Corinthiens 15:23, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de sa parousia. Ici, l'apôtre Paul parle de l'ordre de la résurrection, où les premiers seront les derniers et les derniers les premiers. Une apparition ordonnée. Par conséquent, cet ordre n'espère pas quelque chose d'instantané, mais se fera plutôt pendant une période courte ou longue. Et l'utilisation du mot rang parle également de l'autorité et de la position de chef, que ce passage indique clairement. Encore une fois, nous voyons qu'on parle de résurrection lors de la parousia de Christ. Rotterdam et Irl Pewaren en ont parlé, dans le cadre des événements de la parousia. Nous savons aussi que la parousia implique un cri, une voix et une trompette, parce que ces événements sont décrits par l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 4 comme se rapportant à la parousia de Christ. Frère Branham nous dit également dans le sermon l'enlèvement que la voix, c'est Esther la résurrection. Et frère Branham nous a enseigné qu'il y aura un ordre à la résurrection. Les 7 âges de l'église mère 12 mai 54, il a dit, 98 le dernier sera le premier, et le premier sera le dernier. C'est Esther l'ordre de la résurrection. Je n'ai mis reconnaîtrai personne de la génération qui a précédé la mienne, ni de celle qui suivra la mienne. Je reconnaîtrai ceux de cette génération-ci. Et chaque génération viendra, l'une après l'autre, exactement comme elle était allée. La fois suivante où on évoque ce mot parousia, c'est Esther dans 1 Thessaloniciens 2:19 par l'apôtre Paul. Qui est Esther? En effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de sa parousia? Remarquez alors que la parousia de Christ, selon l'apôtre Paul, doit non seulement être notre espérance, mais aussi notre couronne de gloire. Et cela est vrai? Et quiconque comprend la doctrine de la parousia présence de Christ peut l'attester. Pourtant, il y a des ministres qui qualifient la parousia de Christ de fausse doctrine. Tout ce que je peux dire, c'est honte à vous mon frère, car vous Néhémie savez pas de quoi vous parlez. Mais nous sommes avertis d'un tel comportement dans le livre de Jude. Jude 1:10. Au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, qui est Esther, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi, devant à la vue de, selon la version du roi Jacques, note du trad, notre Seigneur Jésus, lors de sa parousia, si ce passage signifie seulement que nous entrons dans son champ de vision, Alors nous devons nous demander, à quel moment entrons-nous dans son champ de vision? La vue n'indique-t-elle pas la présence? Maintenant, la présence n'est-elle pas déterminée en pouce ou en pied? Mais en à la vue de. Je n'ai mis doit pas nécessairement toucher pour être en présence de. Mais simplement être apporté. Que ce soit de vue ou d'oreille. À mesure que nous nous rapprochons l'un de l'autre, notre vue devient de plus en plus claire et notre compréhension de ce que nous voyons devient plus précise. À partir de quel moment l'acte d'arrivée devient-il présence? Tout bien considéré, la parousia ou la présence implique l'espace et le temps. La prochaine écriture où nous entendons parler du mot parousia, c'est encore l'apôtre Paul dans Thessaloniciens 3.13 afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de la parousia de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Maintenant, comme certains pensent que le mot parousia parle de la seconde venue, je voudrais poser une question, est-ce que l'affermissement de nos cœurs doit attendre sa seconde venue? Quand nous le rencontrons corporellement dans les airs? Ou doit-il y avoir un ministère ordonné à affermir les cœurs et à les préparer comme un peuple bien disposé pour le Seigneur? Attendons-nous la seconde venue pour devenir un peuple saint ou le processus commence-t-il par le prophète de Malachie 4, qui est ordonné à ramener le cœur des enfants à la doctrine des pères de la Pentecôte? Quand leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent mère 12 février 64. 137 maintenant. Savez-vous dans quelle situation je me trouve ici? Combien comprennent ce que j'ai prêché? Voyez? Et j'ai affirmé qu'il est ressuscité des morts. Eh bien, il est ressuscité des morts et il a promis de faire ceci. Maintenant, cela n'est mis Esther passé à aucun temps, depuis le temps des apôtres jusqu'à présent, à ce que nous sachions. Mais, il a promis qu'en ce temps le Fils de l'homme sera révélé comme à Sodome. Eh bien, lisez cela dans Luc 17. Versets 20 à 30. Et voyez si ce n'est pas vrai. Il l'a promis. 138 Lisez Malachie 4. Néhémie confondait donc pas cela avec Malachie 3. Malachie 3. C'était Jean-Baptiste. Voyez? Mais Malachie 4. Aussitôt que cela est terminé. Les mecs. Les justes marcheront sur les méchants et le monde sera consumé par le feu. Voyez. Cela n'est jamais arrivé du temps de Jean. Nous nous attendons à ce que cette grande onction vienne sur l'Église. Que cela ramène les cœurs à la doctrine originelle des pères. Les ramène à la véritable et authentique Pentecôte. Et quelle est cette doctrine originelle des pères? Eh bien, nous vous prouvons aujourd'hui que les apôtres ont tous enseigné la parousia présence de Christ au temps de la fin. Jéhovah Jireh un jour 2 avril 6456 et il nous l'a bien dit et a promis ces choses, selon la Bible, à beaucoup d'endroits. Même l'Ancien Testament a promis cela dans Malachie 4. Comment les choses seraient dans les derniers jours, il ramènerait les cœurs des enfants à la foi des pères. Comme les pères de la Pentecôte, la doctrine originelle de la Bible, la parole originelle. Sait-elle ce que cela ferait? Et il y aurait un signe? Et ce signe confirmerait serait confirmé par la voix qui le suivrait? Selon lequel tu es ici. Et nous croyons en toi. Par conséquent, le processus de ramener les cœurs à la doctrine des pères de la Pentecôte est en cours en ce moment même et a été entamé par le ministère de William Branham en tant que prophète de Malachie 4. Si nous devons attendre la rencontre dans les airs, alors nous aurons déjà un corps glorifié avant que cet état de sainteté et d'irréprochabilité puisse se produire. Si la Bible parle de l'affermissement de nos cœurs, alors comment pouvons-nous attendre la rencontre dans les airs? Frère Branham nous a enseigné que c'est l'état présent de notre cœur que nous amenons dans cette autre dimension. Donc, nos cœurs doivent être changés de ce côté-ci de la résurrection. Après tout, Si cette écriture place l'affermissement des cœurs au moment où nous rencontrons Christ dans les airs, alors nous devons aussi placer Malachi 4, où le cœur des enfants Esther a fermi, au même moment. Esther se consaffermit en un instant, en un clin d'œil, ou Esther c'est un processus, puis, étant un processus, cela implique un espace de temps. L'apôtre Paul a dit dans Éphésiens 1.4-5 en lui Dieu nous a élus pour que nous soyons saints et irrépréhensibles dans sa présence. Ensuite, il nous dit que pour que cela se produise, il nous y a prédestinés. En d'autres termes, il nous a choisis et nous y a ordonnés et ensuite il a préparé le chemin pour que cela se produise. Par conséquent, tout le processus de notre prédestination implique l'espace et le temps dont nous n'y connaissons ni la longueur ni la durée. Nous le voyons tel qu'il est Esther, et nous commençons à nous voir pour ce que nous sommes vraiment. Nous arrivons maintenant au passage que nous avons utilisé comme texte pour ce sermon. Thessaloniciens 4.15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour la parousia du Seigneur, nous n'aimons et devancerons pas ceux qui sont morts. Maintenant, si nous prenons uniquement ce verset, nous laissons en suspens une grande question, comment pouvons-nous devancer ceux qui dorment? Mais le verset 16 répond à notre question quand il dit, car le Seigneur lui-même, à un cri de commandement, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Par conséquent, les morts n'aimés sont pas ramenés avec lui mais ressuscités à cause de la voix qu'il apporte comme frère Branham a dit dans le message l'enlèvement. Il y a trois choses qui se produisent quand il descend. 1. Le cri qui Esther le message. 2. La voix qui Esther la résurrection. 3. La trompette qui Esther l'enlèvement. Nous voyons donc ces événements du cri, qui Esther la proclamation message pour attraper une épouse, puis la voix de la résurrection et enfin la trompette de Dieu qui rassemble l'épouse pour l'enlèvement. L'enlèvement 65-1204. 133 choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse, un cri de commandement, une voix, une trompette. Prenons le cri de commandement. Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Un cri de commandement. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? C'est Esther le message qui Esther proclamait premièrement, le pain de vie vivant, manifestant l'épouse. 131 Dieu a une façon de faire les choses, et il n'aime et change jamais son principe. Il n'aime et change jamais son. Il est Esther le Dieu qui n'aime et change pas. Dans Amos 3.7, il dit qu'une Néhémie fera rien sur la terre, avant qu'il l'ait premièrement révélé à ses serviteurs, les prophètes. Et aussi sûrement qu'il l'a promis, il le fera. L'enlèvement 65-1204 153 Quelle est Esther la chose suivante? C'est Esther une trompette. Un cri de commandement. Une voix. Une trompette. La troisième chose Esther une trompette, et c'est Esther elle qui, à la fête des trompettes, a toujours appelé les gens à venir à la fête, et il y aura le souper de l'épouse, le souper de l'agneau, avec l'épouse dans le ciel. 154 La première chose qui se produit, c'est Esther son message qui appelle l'épouse à se rassembler. La chose suivante, c'est Esther la résurrection de l'épouse qui dort, celle qui mourut dans les autres âges. Ils sont enlevés ensemble, et la trompette les appelle à la fête dans le ciel. C'est Esther cela qui arrive, mes amis. 155 Nous sommes là, prêts maintenant. La seule chose que l'Église, qui est Esther sortie, doit encore faire, c'est Esther de rester au soleil pour mûrir. La grande moissonneuse viendra ensuite. Les tiges seront brûlées, mais le grain sera rassemblé dans le grenier. Voyez-vous? L'enlèvement 65-1204, 141. Il a ordonné que ces choses soient et maintenant il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive, lorsqu'il commence à descendre du ciel, Esther un cri de commandement. Qu'est-ce donc? C'est Esther un message pour rassembler les gens. Un message Esther proclamé premièrement. C'est Esther le temps de la préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes. Quelle veille était-ce? La septième? Pas la sixième? La septième. Voici. L'époux vient. Levez-vous et préparez vos lampes. Et elles le firent. Certaines d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient même pas d'huile dans leurs lampes. Voyez-vous? Mais c'est le moment de préparer les lampes. C'est le temps de Malachie 4. Lorsqu'il pro. C'est Luc 17. C'est Esaïe. Toutes ces prophéties. C'est parfaitement déclaré dans les Écritures. Ce qui se rapporte à ce jour, nous le voyons se dérouler ici même. Ainsi, la parousia de Christ dont Paul a parlé Esther également enseignée par William Branham. Le prochain passage où nous voyons la doctrine de la parousia être enseignée, c'est Esther par l'apôtre Paul, dans Thessaloniciens 5.23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de jusqu'à dans, selon la version du roi Jacques Unto en anglais. Note du trad. La parousia de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, l'apôtre Paul parlait-il de nos cœurs étant conservés irrépréhensibles jusqu'à son acte d'arrivée? Ou lors de sa présence? Le mot jusqu'à dans, Unto, est utilisé de la même manière que dans, Into, et il signifie une conservation qui dure jusqu'au moment de la présence même de Jésus-Christ. Jusqu'à, a-t-il, signifierait que cela vous amène au moment où et vous n'allez pas plus loin? Alors que jusqu'à dans, Unto, implique non seulement jusqu'à, mais, dans, Into. Ainsi, nous resterons toujours saints et irrépréhensibles dans sa présence. La prochaine fois que nous verrons cette doctrine de la parousia dans la Bible, c'est encore une fois par l'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens 2.1 pour ce qui concerne la parousia de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Nous vous prions. Frères, maintenant, écoutez l'avertissement que l'apôtre Paul porte à notre attention. De ne n'aimez pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de n'aimez pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. 3. Que personne n'aimez vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Nous voyons donc qu'il doit y avoir une apostasie qui désigne que le temps est proche, que le jour de Christ est proche. Cela fait partie des événements qui se produisent lors de la parousia de Christ, comme l'apôtre Paul le fait clairement entendre dans ces 3 versets de la Bible. Par conséquent, Christ doit arriver et être présent pour que ce passage ait un sens. Comment nous réunissons-nous auprès de lui s'il n'est pas ici? Cela ne veut pas dire que nous nous réunissons et ensuite il vient. Il doit d'abord être ici et ensuite nous nous réunissons auprès de lui. Sinon nous nous réunirons auprès de quelqu'un ou quelque chose d'autre et non auprès de lui. Il ne s'agit pas de son acte d'arrivée mais de sa présence ultérieure et de l'un des caractéristiques de sa présence. Et ce n'est pas nous qui nous réunissons, mais c'est son action qui nous réunit lors de sa présence, quand il nous rassemble auprès de sa présence. Par conséquent, ce n'est pas nous qui nous réunissons, mais il est là pour nous réunir. Maintenant, lisons d'abord Malachie 3.16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, l'Éternel fut attentif, et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. 17 Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Maintenant, remarquez ici, il vient les réclamer comme étant à lui. Sa présence déclarera ceux qui sont à lui, ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, maintenant, la traduction Lamsa dit, en ce jour où je viens assembler mes gens, et la version NIF dit, quand je viendrai prendre ma possession, et la version RSV dit, ils seront ma possession spéciale en ce jour où je commencerai à agir. Mais ils continuent tous par ces mots, et je les épargnerai comme un homme qui épargne son fils que le sert. Ce sont là des paroles d'adoption. Et cela devrait nous dire que Dieu vient comme le Père de gloire pour rassembler ses enfants qui lui sont plus précieux que des joyaux. Car il est ici pour nous sauver de la destruction qui est ordonnée à venir. Et je les épargnerai, comme un homme épargne son propre fils qui le sert. Encore une fois Esther le bon genre de fils, et un fils prêt pour l'adoption. 18 Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui n'est aimé le sert pas. Nous voyons également Matthieu 3.12 nous dire que c'est Esther lui qui procédera au rassemblement. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, et la masse rassemblée dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu, qui n'est mis c'est un point. Il doit y avoir une réunion avec lui. Et dans son sermon, question et réponse 4, 64-08-30-81 l'épouse Néhémie sera pas rassemblée d'un seul endroit, elle sera rassemblée de partout dans le monde. Donc, l'une des caractéristiques identifiables de sa parousia Esther ce rassemblement. Alors où sera ce rassemblement? Dans sa présence. Et il a Esther la parole confirmée. Question et réponse 4, 64-08-30-430. Quand et où le peuple de Dieu se rassemblera-t-il pour la parole de la fin? 190 en Christ. Eh oui. Pour le dernier jour, ils se rassembleront en Christ. Néhémie l'oubliez pas. Maintenant. Nous avons un lieu de rassemblement. Nous l'avons. Parfaitement. De Thessaloniciens 2.8-9 Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de sa parousia. 9 La parousia de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Ce n'est pas seulement l'acte d'arrivée qui détruit la puissance de Satan, mais c'est à la parole de Dieu qui le bat toujours. Jésus l'a démontré lors de l'expérience du désert où il était tenté par Satan, mais a vaincu Satan par la parole. Ce n'est donc pas seulement l'arrivée ou la seconde venue qui fait cela, mais la parole de Dieu qui rend Satan impuissant. De même, dans la nature, la plupart des formes de vie de nature parasite Néhémie peuvent pas supporter directement la lumière. La lumière directe du soleil détruira les champignons, les bactéries et toutes sortes de formes de vie parasitaires. Même chez les patients cancéreux, l'utilisation de la lumière ou de la radiothérapie est utilisée pour tuer des zones entières d'infection. Satan est le plus grand de tous les parasites. Il n'a pas créé mais il n'a fait que pervertir à travers les âges. Et remarquez que lors de la parousia de Christ, nous voyons aussi la parousia de Satan. Alors Néhémie pensait pas qu'il soit étrange que quand les fils de Dieu parviennent à l'image du Fils premier né lors de la parousia de Christ, que le reste du monde, les fils du méchant, parviennent aussi à l'image de leur père, Satan. La fois suivante, dans la Bible, où nous entendons parler de la parousia de Christ, c'est Esther dans 2 Pierre 3.4 et 10 ans, où Esther la promesse de sa parousia? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Le fait même que cela dit que tout demeure, prouve qu'il s'agit d'une période de temps. Un autre point à considérer, Esther, que cela parle d'une promesse qui est Esther associée ou causée par la parousia. Pas spécifiquement que la parousia Esther la promesse, bien que nous sachions que c'est Esther le cas. Mais tout comme Paul dit dans Galates 2.20 que nous vivons par la foi du Fils de Dieu. Donc, nous voyons également ici que la Bible dit que les moqueurs diront, où est-elle la promesse de sa parousie? Il y a certainement des promesses associées et causées par la parousia de notre Seigneur Jésus-Christ. La fois suivante, dans la Bible, où nous entendons parler de la doctrine de la parousia, c'est Esther par l'apôtre Jacques ou dans Jacques 5.7-8 « Soyez donc patients, frères, jusqu'à la parousia du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. 8. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car la parousia du Seigneur est proche. » Ici, la Bible décrit la condition qu'exige le temps de la moisson et décrit la présence personnelle du Seigneur comme celle d'un vigneron attendant la maturation du fruit. Maintenant, la question Esther est la suivante, si le vigneron attend que le fruit soit mûr, pourquoi parle-t-il encore de sa présence comme quelque chose qui doit avoir lieu dans le futur? La réponse Esther est très simple. Comme vigneron vous entretenez le fruit, mais en tant que vigneron vous récoltez aussi le fruit. Il est là pour récolter la récolte de ses enfants, son blé, et avec patience. Ce qui en soi indique une période de temps plus ou moins longue. Il est temps qu'il parvienne à la maturité, donc, à l'adoption ou au placement de fils. Jean 2.28 Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Et qu'à sa parousia nous n'ayons mis soyons pas confus et éloignés de lui. L'apparition Esther liée à sa présence. Cette apparition Esther un mot, qui signifie un grand éclat ou révélation de ce qui au préalable n'a pas été révélé. D'où une présence produisant une révélation, pas simplement l'acte d'arriver. Vous remarquerez également que cette grande révélation nous fait introduire dans un état d'assurance. Sans malaise. Maintenant, l'assurance Esther quelque chose qui doit s'accumuler. Il n'y vient pas par une incantation magique, mais par l'épreuve et la victoire. L'épreuve et la victoire. Frère Branham dit dans l'exposé des sept âges de l'Église que le caractère n'Esther pas un don, le caractère Esther une victoire. Ainsi, l'assurance doit être apprise, ce qui implique encore de l'illumination et du temps. Dans Philippiens 2.12 l'apôtre Paul utilise le mot parousia, sans rapport avec la parousia de Christ au temps de la fin mais en rapport avec sa propre présence personnelle. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma parousia, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Remarquez l'application ici. Paul contraste sa présence et son absence. Ce passage donne si clairement l'exemple d'usage du mot parousia comme étant la présence qu'il faudrait vraiment être désespéré pour faire du mot parousia autre chose que la présence. De Pierre 3.12 tandis que vous attendez et hâtez la parousia du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Il s'agit là encore d'une série d'événements qui constituent plus que le simple acte d'arriver, mais une présence suscitant une série d'événements. Et rappelez-vous, quand les gens rejettent avec dédain la miséricorde, il n'y reste plus que le jugement. En sorte que la dernière des parousias de Christ apportera la destruction totale de ce monde. Quand la présence de Dieu quitte la terre, à ce moment-là, il ne lui restera plus rien pour empêcher la terre de se disloquer. Dans l'Église passera-t-elle par la tribulation ou les appeler, à sortir Jean 9 janvier 58 il a dit, 24. Il est intervenu maintenant dans la miséricorde. Il se révèle à l'Église. Cela a été raillé et ridiculisé. La prochaine fois qu'il se révèle, ça sera dans le jugement sur le monde et les nations qui ont oublié Dieu et qui ont rejeté leur voie de grâce, ou plutôt leur jour de grâce. De Pierre 1.16 se n'espère pas. En effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et la parousia de notre Seigneur Jésus-Christ, mais s'espère comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Simplement dit, Pierre, Jacques et Jean, amenés sur la montagne par Jésus où il fut transfiguré sous leurs yeux, n'ont pas été témoins d'une venue mais d'une présence. Et cela montre aussi que la puissance de la confirmation et la présence vont de pair, quand Esther en rapport avec le Seigneur lui-même. I Corinthiens 16.17 Je me réjouis de la parousia de Stéphana, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence. Maintenant, si Néhémie parle que de leur arrivée, qu'Esther ce que leur arrivée a apporté aux gens? C'étaient les efforts déployés lors de leur séjour qui furent en mesure de suppléer ou d'aider les gens dans leurs besoins. La parousia aux présences du Seigneur en ce Néhémie fera rien pour vous. C'est Esther la manifestation ou le dévoilement de lui-même qui supplée à tous nos besoins. Il existe plus de 5 milliards de personnes sur terre aujourd'hui. Et que fait la présence de Dieu pour eux? Ce n'Esther pas différent de sa première venue où il était dans le monde. Et le monde a été fait par lui, et le monde n'a aimé la point connu. Ils deviennent plus impies au fur et à mesure que les jours passent. 2 Corinthiens 7.6-7 Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par la parousia de Tite. C'était non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet, il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Encore une fois, nous voyons ici que ce n'était pas l'arrivée de Titus mais sa présence auprès des gens et son ministère auprès d'eux pendant son séjour. En fait, Paul a dit, ce n'est-ce pas sa présence qui a causé cette consolation mais c'est-ce ce qu'il a fait en étant présent. 2 Corinthiens 0.10 Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais, sa parousia en personne, il est faible, et sa parole est méprisable. Paul dit que sa présence en personne peut être faible, mais si le langage signifie quelque chose, comment sa venue en personne pourrait-elle être faible? Cela n'aurait aucun sens. Philippiens 1.26 afin que, par mes parousias auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Encore une fois, Paul parle-t-il uniquement de l'acte de son arrivée? Ou parle-t-il de sa présence auprès des gens et ce qui se passe pendant qu'il est là? Par conséquent, comme vous pouvez le voir la Bible regorge de nombreuses écritures de tous les écrivains du Nouveau Testament, qui parle de la parousia présence de Christ au temps de la fin et de la période où de nombreux événements se produiront, constituant ainsi la présence de Christ au temps de la fin. Prions. C. Grâce Fellowship Tabernacle, mars 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.